La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous dans ce lieu ce matin avec un beau cadeau que nous ont fait nos musiciens aujourd'hui, cette invitation du chœur de la cathédrale de Schleswig, c'est ça ? C'est bon. Et qui nous vient donc avec ces cuivres et ces voix que nous allons entendre tout à l'heure. Bienvenue à vous tous et toutes ici ce matin à l'Oratoire du Louvre. C'est David qui a créé le contact entre David Cassan, notre organiste, qui a créé le contact entre le chœur et nous. Et c'est Aurélien Péter qui a préparé ce moment, qui est à la tribune d'orgue ce matin, et qui a préparé le moment avec le chœur. Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, c'est le tout début des vacances scolaires et sans doute beaucoup sont déjà partis au loin, mais peut-être nous regardent-ils quand même. Et donc, je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui sont par le biais d'Internet avec nous ce matin. Je vous invite à nous réunir dans un premier répond au début des psautiers français. Vous avez tous les réponds de la liturgie du culte. Je vous invite à chanter ensemble. Nous louons Dieu avec le début du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Chantons notre louange avec le psaume 36, les strophes 1, 2 et 3 dans le psautier français.
Thank you.
Dans le livre des Proverbes, il est écrit cette phrase de sagesse. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai, quand tu as de quoi donner maintenant. Ce matin, je partage avec vous une prière de Blaise Pascal, une fois n'est pas coutume, qui n'avait pas tout à fait la même théologie que nous avons ici, je vous l'accorde, mais qui écrit cette belle prière à Dieu et qui lui demande de l'aider. À qui crierai-je, Seigneur ? À qui aurais-je recours si ce n'est à vous ? Tout ce qui n'est pas Dieu ne peut pas remplir mon attente. C'est Dieu même que je demande et que je cherche. Et c'est à vous seul, mon Dieu, que je m'adresse pour vous obtenir. Ouvrez mon cœur, Seigneur. Entrez dans cette place rebelle que les vies sont occupées. Ils la tiennent sujette. Entrez-y, comme dans la maison du fort. Mais liez auparavant le fort et puissant ennemi qui la maîtrise, et prenez ensuite les trésors qui y sont. Seigneur, prenez mes affections que le monde avait volées. Volez vous-même ce trésor, ou plutôt reprenez-le, puisque c'est à vous qu'il appartient, comme un tribut que je vous dois, puisque votre image y est empreinte. Vous l'y avez formé, Seigneur, au moment de mon baptême, qui est ma seconde naissance, mais elle est tout effacée. L'idée du monde y est tellement gravée que la vôtre n'est plus connaissable. Vous seul avez pu créer mon âme, vous seul pouvez la créer de nouveau. Vous seul avez pu former votre image, vous seul pouvez la reformer et y réimprimer votre portrait effacé. C'est-à-dire Jésus-Christ, qui est votre image et le caractère de votre substance. Le Seigneur nous redit sa grâce, il revient en nous imprimer son amour, son visage de grâce pour nous. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit « Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. » Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Et nous restons debout pour entendre ce texte que mon ami et mon confrère Gilles Castelnau nous avait proposé dans un de ses cultes. Je suis Dieu, dit Dieu. Je suis dans la tendresse du baiser qu'échangent les amoureux. Je suis dans le premier cri des nouveau-nés. Je suis le mystère dans le livre de la vie. Je suis le lien qui unit l'homme et la femme. Je suis l'espérance qui permet de semer. Je suis l'amour. Je suis Dieu. Je suis dans la joie des enfants qui jouent. Je suis dans la générosité du geste fraternel. Je suis en toi aujourd'hui comme je le serai toujours. Je suis là dans la nuit de ta vie jusqu'à ce que l'aube se lève pour toi. Je suis la joie, je suis Dieu. Je suis l'espérance qui chasse la dépression, le courage qui affronte l'angoisse. J'apaise le chagrin, je propose des ouvertures. Je rends capable d'affronter dans l'amour les défis de la vie. Je tends la main pour amener sur mon chemin. Je suis la paix, je suis Dieu. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Merci Aurélien. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, les versets 3 à 9, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux le faire encore, je veux encore porter, soutenir et libérer. À qui me comparerez-vous et me rendrez-vous égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils font des révérences et se prosternent. Ils le portent. Ils le soutiennent avec l'épaule, ils le déposent là où il restera. Il ne bouge pas de sa place. Même si l'on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de cela et soyez fermes. Rebelles, prenez la chose à cœur. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 202, les strophes 1 et 2 dans le louange et prière. Et nous nous levons. Thank you. Nous prions ensemble. Éternel, bénis notre lecture, bénis l'écoute de ces paroles anciennes qui nous ont été transmises et que nous devons laisser décanter dans notre actualité, dans notre monde. Éternel, permets que nous retrouvions ce que tu adresses à chacun au milieu des témoignages bibliques, et que chacun et chacune de nous, nous puissions trouver nos voies dans ce compagnonnage tellement ancien entre toi et nous. Amen. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. Cette affirmation monothéiste semble aller de soi pour nous autres auditeurs du XXIe siècle. Et on a souvent l'impression que tout a toujours été comme cela et que cette foi monothéiste a toujours été la même de siècle en siècle. Pourtant, cette affirmation du prophète Ésaïe recèle toute la complexité d'une théologie où les dieux des nations s'affrontent au gré des invasions. Ce texte est écrit sur fond de politique, la politique de Babylone et des Perses qui vont s'emparer de Babylone. La notoriété des dieux est dépendante de la puissance des rois, des cités-états à cette époque, et de la victoire de ces derniers dans les guerres de conquête que se livrent les empires en Mésopotamie. Ce passage du livre du prophète Ésaïe parle d'une période où le peuple de Adonai, celui qu'on écrit grâce au tétragramme Yahvé, prend sa revanche, au moins dans son récit, parce que dans les faits, c'est une toute petite entité qui n'a pas voix au chapitre. Le petit reste peut invoquer la puissance de son Dieu, car Babylone la Jolie, comme l'appelle le prophète, va enfin tomber devant les Perses et leur souverain Cyrus. Sur un cylindre d'argile retrouvé à Babylone, on peut lire, écrit en caractère cunéiforme, le récit apologétique de la politique de Cyrus. Marduk, le grand seigneur, c'est le dieu national, si on peut dire, le gardien de ses gens, regarde avec joie ses bonnes actions et son cœur droit. Il lui ordonna d'aller vers Babylone, sa propre ville. Il lui fit prendre la route de Babylone, allant sans cesse à ses côtés comme un ami et un compagnon, tandis que s'avançaient à ses côtés, ceintes de leurs armes, ses troupes
aussi vaste que les eaux d'un fleuve. Il le fit entrer à Babylone sans bataille ni combat. Il délivra de l'oppression Babylone, sa propre ville. Il lui livra Nabonide, un roi qui ne le craignait pas. Ainsi, Cyrus, roi des Perses, est invité ici par le dieu de Babylone, Marduk, à entrer dans sa ville et à renverser le roi qui lui est infidèle. Extraordinaire récit politique qui veut soutenir l'idée que l'empire perse est ami du dieu local et répond à une volonté de ce dieu, Marduk, en envahissant Babylone. Et plus loin, c'est Cyrus qui parle. Et il parle de lui-même en disant « Lorsque j'entrais pacifiquement dans Babylone, j'établis dans l'allégresse et la jubilation le siège de la souveraineté dans le palais du prince Marduk. Le grand seigneur s'était acquis en moi un cœur large qui aime Babylone. Chaque jour, je veille à ce qu'il soit craint. Quant aux citoyens de Babylone, qui, contrairement à la volonté divine, avaient été soumis à un joug qui n'était pas fait pour eux, je leur accordais de se reposer de leur fatigue, je fis dénouer les liens de leur fardeau. » Cette façon de récupérer les faits historiques dans l'épopée du dieu national n'est pas une manipulation démagogique isolée dans les théologies anciennes, même si cela peut nous surprendre tellement la manœuvre est énorme. Le prophète Ézéchiel fera de même pour expliquer l'exil à Babylone d'un peuple que Dieu ne veut pas abandonner, mais sanctionner à cause de ses manquements envers lui. Et il dira qu'en fait, la catastrophe qui leur arrive est une volonté divine et que c'est le Dieu Adonai qui a voulu cela. Pendant l'exil, le roi Nabonide de Babylone, celui qui était infidèle et dont on vient de parler, délaisse Marduk, le dieu qui était devenu au fil du temps comme une synthèse des dieux mésopotamiens, sans pour autant les remplacer. À cette époque, on garde les dieux anciens et on leur additionne des nouvelles entités. Le roi Nabonide préfère le dieu lune, appelé Sin. Et c'est là qu'une controverse va commencer pour savoir quel est le dieu véritablement de Babylone. Et sans doute cette controverse théologique, qui mettait en concurrence deux divinités, a dû permettre à ce reste d'Israël exilé à Babylone de penser autrement sa propre divinité et d'affirmer de plus en plus l'unicité de son Dieu. Jusque-là, monolâtres, c'est-à-dire qui n'adorent que leur Dieu sans nier l'existence des autres divinités, les Israélites deviennent monothéistes et ils affirment qu'il n'y a qu'un Dieu. À mesure qu'ils devaient affirmer la puissance de leur nation flouée et oppressée par les empires d'Assour et de Babylone, la théologie change. Et tout cela est progressif, et tout cela n'a pas toujours été ainsi. Dans le livre d'Esther, on trouve encore des traces de cette théologie monolâtre, qui préfère Adonai, mais qui n'exclut pas Marduk ou Ishtar. En effet, Esther est la transcription d'Ishtar, la déesse des astres. Et Mardoché est composé avec le nom du dieu tutélaire Marduk. Preuve que l'évolution s'est faite progressivement chez les auteurs bibliques même. Quand Cyrus arrive à Babylone, il est présenté par les théologiens d'Israël comme l'instrument du dieu Adonai. Retournement de situation. Il est le Messie qu'on attendait, le consolateur, celui qui permet au petit reste de retrouver sa liberté de culte. « J'appelle d'un pays lointain l'homme de mes projets, dit Dieu dans Ésaïe. » Preuve que la fondation ou la fonction de Messie n'est pas réservée à un seul homme dans l'histoire de notre foi, mais qu'elle est véritablement une fonction qui a changé au fil du temps et a été portée par de diverses personnes. Alors le petit reste jubile et peut se moquer de ces dieux qu'on portait en procession lors du nouvel an babylonien, sur les épaules des processionnaires. L'idole en bois est démasquée dans son inutilité. Ils le portent, ils le soutiennent avec l'épaule, ils le déposent là où il restera. Il ne bouge pas de sa place, même si l'on crie vers lui, il ne répond pas. il ne sauve pas de la détresse. Pour affirmer son identité, son indépendance et l'honneur de son Dieu, le peuple de Juda a pensé son Dieu par contraste avec celui de ceux qui l'opprimaient. Son Dieu est d'abord le meilleur, puis il va devenir le seul vrai Dieu. De monolâtre, la théologie devient monothéiste. Mais dès les commencements de cette théologie, Adonai a une particularité. Il n'a pas de représentation anthropomorphique comme les dieux de ses voisins. Il est même interdit de produire des reproductions. C'est une religion qu'on appelle aniconique, sans icône, sans représentation, sans image. Alors, pour marquer sa présence, on va user de ce stratagème. On représente un vide encadré de deux piliers, suggérant dans cet espace la présence dans le vide même de la révélation de Dieu. Ou alors, on trouve une autre façon de faire. On le voit très souvent dans le Premier Testament, on dresse des pierres pour marquer le lieu de la présence divine. Le Dieu dont nous parle Ésaïe n'est pas une idole qu'il faut porter, mais un Dieu qui porte ses enfants depuis le ventre maternel. Vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à votre âge avancé je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer, dit Dieu. Cette déclaration d'amour d'un Dieu qui n'abandonne aucun de ses enfants nous fait sentir affectivement, presque physiquement, la force de son engagement pour l'être humain, pour nous. L'affirmation selon laquelle le Dieu de l'Ancien Testament est guerrier et fait peur, alors que le Dieu de Jésus-Christ serait un Dieu qui aime et qui fait grâce, est une conception répandue dans le christianisme qui a du mal à se souvenir que le Dieu auquel croyait Jésus, celui qui l'a inspiré, c'est précisément ce Dieu des prophètes et principalement le Dieu d'Ésaïe, un Dieu qui prend soin, un parent aimant. On le voit, les questions théologiques ne se résument jamais facilement hors contexte historique, car elles viennent toutes de ce que les fidèles vivent dans la réalité de leur existence. Le Dieu d'un exilé n'est pas celui de la maison, de la nation dominante. Et les dieux des idolâtres ne sont peut-être pas à railler autant que fait Ésaïe lui-même pour prendre sa revanche. Ils disent, comme le dit Ésaïe lui-même, la difficulté de vivre des êtres humains laissés à leur sort et à leur précarité et le besoin de secours qu'ils ressentent. Compris plus le Baal, Dieu du tonnerre, dans les moments de sécheresse, est une évidence anthropologique. Et il nous faut souvent en rabattre sur notre idéalisme théologique qui nous illusionne sur le contenu des textes bibliques comme s'il existait une foi pure que toute intention humaine aurait laissé exister par elle-même sans aucune scorie. Le Dieu un n'est pas une évidence. Le Dieu puissant n'est pas une évidence non plus. Si l'on regarde le critère de validité du Dieu invoqué dans le passage d'Ésaïe que nous avons lu, il est des plus intéressants car il n'est pas du tout idéaliste ou déconnecté de la réalité humaine. Le Dieu dont on fait une statue de bois recouverte d'or ne sauve personne de la détresse, étant sous-entendu que Adonai, lui, porte l'humain dans la détresse. Voilà pourquoi il est un Dieu digne de confiance. Alors on objectera que le principe d'utilité dans les affaires théologiques est quand même un peu trivial et que la confession de foi chrétienne a mis bon ordre à toutes ces religions polythéistes qui se servaient du religieux comme d'un grand supermarché où l'on trouve tout pour chaque demande. Pourtant, à peine Jésus avait-il enseigné les paroles du prophète Ésaïe à ses disciples, qu'il a fallu qu'on l'élève au rang de sauveur lui aussi et qu'il puisse répondre aux demandes des uns et des autres, au rang de Messie, comme Cyrus en son temps, qui vient sauver et délivrer. Jésus devenait alors le Christ, loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction, celui qu'on attendait pour sauver le peuple. Il était donc utile lui aussi. Au fil du temps, comme si Dieu ne suffisait plus à sauver, Jésus est même devenu divin dans la théologie d'un clergé qui voulait politiquement gagner en légitimité, mais aussi parce qu'il était humain accédant à la divinité et que c'était très utile pour penser la proximité avec Dieu. Un prophète, c'est bien, mais un Dieu-fils, imaginez. Si nous essayons de prendre au sérieux les discours prophétiques avec leur teneur politique, anthropologique et sociale, il me semble que la question centrale soit celle de la relation que nous avons au divin, précisément quand les choses vont mal et il n'y a pas à en rougir. C'est moins attirant que de répéter à longueur de prédication que nous avons un Dieu qui libère et qui aime, et que c'est évidemment le meilleur. Mais il me semble que cette vision idéalisée n'apporte qu'une espérance de courte durée. C'est cette fausse naïveté, d'ailleurs, qui permet parfois à l'athéisme d'apparaître plus rationnel que la foi même, comme si la foi était une illusion, puisqu'elle ferait comme si nous n'avions aucun problème à partir du moment où nous déclarons que notre Dieu sauve et libère. La belle affaire, les humains ne sont toujours pas sauvés de leur misère, de leur détresse. La foi d'Ésaïe n'est jamais une affaire réglée. Sinon, nous n'aurions pas ces pages magnifiques de profondeur et ces 66 chapitres de description et de réflexion sur l'histoire d'un peuple qui se cherche en cherchant qui est son Dieu. Une façon de dire à Dieu, tu seras mon vis-à-vis pour que je sache où je vais et qui je suis. La foi d'Ésaïe, comme celle de Jésus, est cette foi qui, regardant la situation de quelques êtres humains à un temps précis de leur histoire, se demande où est Dieu dans la précarité de l'homme. C'est une foi qui se questionne elle-même, qui se critique elle-même, qui vit des revirements, une foi honnête. C'est une foi qui se demande pourquoi les puissances qui oppriment ne sont pas arrêtées et pourquoi la paix juste et durable n'est jamais tout à fait possible. Où est Dieu ? Qui est-il ? Dieu me porte-t-il ? Cette question existentielle est une question qui va au-delà de savoir si nous avons la bonne religion, la bonne façon de la dire, si l'idolâtrie est permise ou non. Il ne s'agit pas seulement de dire que les dieux des autres sont risibles, mais de penser sincèrement à l'utilité de notre foi. Qui façonne un Dieu pour n'en retirer aucune utilité, demande Ésaïe au chapitre 44. Une vraie question. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, comme dit le psaume, et si les opprimés ne sont pas sauvés par ce Dieu qui dit les porter, où est la vérité de cette relation que l'être humain tisse avec cette entité qui l'excède infiniment ? Cette transcendance si difficile à cerner que les anciens Hébreux n'ont pas voulu qu'on la représente et même qu'on prononce son nom. À qui me comparerez-vous et me rendrez-vous égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? Cette question qu'Ésaïe met dans la bouche d'un Dieu qui ne ressemble à personne mais qui parle à son peuple pose le problème de la foi en un Dieu qui se révèle sans image. Cette question dit un Dieu sans qualité, en quelque sorte, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire un Dieu qui n'est que parce qu'il est relation. Relation avec nous, relation avec les croyants, relation avec ceux qui le cherchent. Quand il dit « Je suis », il s'adresse à nous et pose la question de notre existence. Un Dieu intime qui se fait connaître dans nos joies, dans nos peines, dans nos chagrins les plus indicibles, sans qu'on puisse dire comment. Dans les lumières les plus éclatantes de nos vies et dont les qualités ne peuvent être énumérées comme divines puisqu'elles dépendent entièrement de sa relation à l'être humain. « Je suis Dieu, dit Dieu. » C'est un peu court, me direz-vous, pour sauver un homme. Mais cette affirmation n'était pas celle d'un Dieu qui assume cette divinité, sa distance avec nous, et du même coup la nécessité de cette parole entre nous. N'est-ce pas cette distance qui nous révèle à nous-mêmes, dans notre humanité? Le Dieu qui porte dans la maladie, c'est lui. Le Dieu qui fait vivre malgré la guerre, c'est encore lui. Le Dieu qui donne la dignité au-delà de la misère, c'est toujours lui. Et quand on voit le mal qui s'abat sur notre terre, on se demande comment cela est possible. Grâce à lui, nous continuons d'être malgré tout. C'est parce qu'il est absolument autre que nous qu'il peut être dit de lui qu'il nous porte. Il nous fait advenir à l'existence par la relation qu'il nous permet avec l'infini. Il est cette force au-delà de nos forces. Quand nous ne croyons plus au possible, parce que le possible est au-delà de ce que nous pouvons imaginer et que nous nous en remettons à lui, entièrement. Rien à voir avec une idole devant laquelle on s'agenouille, me direz-vous ? Rien, sans doute, si l'on regarde uniquement la forme. Si ce n'est peut-être la vérité d'une foi, et c'est là qu'il faut être respectueux avec toutes les formes de foi, quand elles sont sincères. Après tout, quand on s'agenouille, on est peut-être aussi dans cette relation qui demande « Qui suis-je devant toi, qui es ?» La vérité d'une foi qui transparaît sous la forme de nos cultes et qui nous pousse à nous en remettre à ce que nous ne sommes pas et que nous ne pourrons jamais être. Dieu, celui qui est. Que l'on traverse une idole, que l'on traverse une icône ou que l'on traverse un nom, c'est toujours cet être qui est infiniment autre que nous, que nous cherchons dans la foi. Alors, après cette affirmation « Je suis Dieu », le travail des humains commence et la théologie peut commencer. Pour dire avec les mots humains ce qui est, pour que nos mots le portent, ce Dieu qui est, et sauve nos vies, pour que ce Dieu puisse les sauver en les portant vers l'infini. Amen.
Merci beaucoup. Je vous invite à chanter le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, nous allons partager quelques annonces maintenant et c'est Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral, qui partage avec nous les annonces.
Merci Béatrice, merci au cœur, merci à Aurélien, merci à vous d'être venus si nombreux en ce premier week-end de vacances scolaires. Et je voudrais commencer par un grand remerciement à la caméra et à vous dans l'Assemblée de vous être mobilisés pour qu'on puisse faire sélectionner par la ville de Paris la rénovation de nos arcades de la rue de Rivoli. Souvenez-vous, en septembre, à la sortie du culte, nous vous avions distribué le QR code. Le projet est passé, en tout cas dans le budget participatif de la ville de Paris, avec une mention « J'adore ». Quand même extraordinaire, nous sommes sortis lauréats. Je crois que nous sommes l'un des seuls projets dans Paris Centre à être sortis avec la mention « J'adore » et donc avec plus de 52% de « J'adore » coup de cœur. Voilà. Donc nous devrions, sûrement pas cette année, mais l'année prochaine, voir démarrer, du moins j'attends une confirmation officielle de la part de la ville de Paris, la rénovation de nos arcades qui sont donc derrière. Vraiment un immense merci à vous tous. Autres annonces, exceptionnellement, le groupe protestant des artistes d'habitude ne se réunit jamais en vacances scolaires, mais sera là bien lundi si vous voulez rejoindre le cours de peinture. Dimanche prochain, Bruno Godelet nous fait l'amitié de venir prêcher ici et présider le culte, puisque tu pars un peu en vacances. Et le dimanche d'après, nous retrouverons donc début novembre Béatrice pour le culte de la Réformation.
C'est dimanche que Bruno prêchera sur la Réformation. Parce que c'est le 30, alors du coup, c'est toujours entre deux.
Vous avez voulu en avoir tous les deux. D'accord. Et nous nous souviendrons de nos morts dimanche ou le dimanche d'après ? Le 3 novembre. D'accord, donc tous les deux. Donc dimanche prochain, Bruno Godelet, dimanche d'après, Béatrice Cléromazière. Je sens que je vais dire une bêtise. Voilà, c'est un grand moment. On a une petite surprise pour toi, Béatrice. Tu vois, c'est une bêtise, on a une surprise pour toi. Et le cœur va même faire la surprise avec nous et Aurélien. Donc, un grand merci à vous. Je vous laisse faire deviner la surprise à l'Assemblée. Merci, joyeux anniversaire. Les fleurs, c'est périssable. Donc souviens-toi, j'avais offert à Agnès un dimanche aussi qui prêchait un bouquet de chocolat. Voilà. Donc voilà, un bouquet de chocolat.
Merci, merci beaucoup. Et alors, les fleurs, c'est périssable, mais le chocolat, c'est préjudiciable parce que, à force d'en manger, vous avez des robes pastorales qui deviennent des mini-jupes. J'ai déjà vu, je vous assure. On les remplit et c'est terrible. Merci beaucoup. Merci à vous.
Nous avons également un petit cadeau pour le chœur. Donc, la chef de chœur parle parfaitement français. Les fleurs, c'est périssable également. Donc, nous avons préparé quelques bouteilles de champagne pour qu'en revenant en Allemagne, vous puissiez en profiter. Voilà. Dieu est dans le lieu fraternel. Vous avez écouté la prière de notre ami Gilles Castelnau. Tu as parlé aussi d'icône. Nous avons une icône qui est le don joyeux. Et donc, j'écoute tes prédications.
Je ne sais pas de quelle façon, mais tu les écoutes.
Donc, c'est le moment de l'offrande. Merci à vous d'avance. Également, pensez que nous avons encore 50% de notre budget à réunir avant la fin de l'année. C'est une particularité de l'oratoire qui met un peu de stress sur le conseil presbytéral chaque année. Mais Dieu est dans l'offrande joyeuse, donc tout va bien. Merci à vous. Bon dimanche. Au nom du conseil presbytéral, un grand merci au cœur de la cathédrale de Schleswig. Ils sont en concert ce soir à 18h à l'Étoile, c'est bien ça ? 19h à l'Étoile ce soir, donc n'hésitez pas à les retrouver ce soir. Également, je passe la parole au clan des Panthères, qui ont des choses également périssables finalement. Bon, à vous vendre.
Bonjour, on est les scouts, enfin les éclaireurs de l'oratoire et on vend des gâteaux à la sortie du temple pour financer notre camp. Et alors pour le prix, c'est prix libre, vous donnez ce que vous voulez.
Voilà. Voilà, donc vous pouvez tous offrir une part de gâteau à Béatrice pour son anniversaire à la sortie. Ouais, mais bon, Jean-Pierre les mangera. Merci à vous, bon dimanche. Merci à vous les filles.
C'est une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais jeune pasteur, quand j'étais stagiaire encore, je crois, où un pasteur me dit « Bon, je vais faire le mariage avec toi pour t'aider ». Et puis il remet sa robe pastorale et ça faisait des années qu'il ne l'avait pas mise. C'était un pasteur à la retraite. Et alors, la robe pastorale avait tout d'un coup changé complètement et il ne la portait plus du tout pareil. Voilà. Alors, je vous invite à revenir dans peut-être la profondeur de ce culte. Et nous allons prier ensemble. Éternel, nous voulons te remettre aujourd'hui toutes celles et ceux qui ont besoin d'être portés. Portés par ta parole d'amour, portés par ta parole de grâce, portés par l'espérance que tu es là, au cœur de leur vie. Portés dans toutes les misères que la vie réserve et où l'on ne voit parfois pas d'issue. Éternel, ceux qui ont cru en toi t'ont présenté comme une mère qui prend soin, comme celui qui veille depuis le sein maternel sur chacun de nous. Permets que cette conviction puisse nous aider à avancer en confiance, certains et certaines que nous sommes aimés infiniment. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux qui mettent leur confiance dans une religion qui pourtant leur fait peur. Toute cette piété qui implique la culpabilité, qui fait que chacun se sent jugé, sanctionné. Éternel, permet que nous soyons de ceux qui annoncent cet amour infini que tu as pour chacun et que la peur ne soit jamais mêlée à la foi. Éternel, libère-nous de nos penchants qui font que nous voulons te voir comme nous-mêmes nous réglons nos comptes dans ce monde. Tu es autre, au-delà. Permet que nous puissions te reconnaître comme autre. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux qui invoquent ton nom pour la violence. Détourne-les de ce chemin et que jamais nous ne prenions le même chemin qu'eux. Tu as été présenté comme le Dieu des armées, le Dieu qui combat aux côtés de ceux qui tuent. Déconstruis dans notre cœur cette image et que nous puissions te considérer réellement au-delà. Éternel, nous te demandons ta présence. dans notre cœur, dans notre foi. Soutiens notre foi. Porte-nous, Seigneur. Et ensemble, nous voulons te dire, comme ces enfants sur lesquels tu veilles depuis le ventre maternel, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes ensemble ici, mais il faudra partir et aller voir ceux qui ont besoin d'un soutien, d'une parole de réconfort, ceux qui ont besoin d'être portés dans notre monde et qui ont besoin d'une main tendue. Peut-être sommes-nous de cela aujourd'hui et demain, un autre aura besoin de nous. Alors souvenons-nous de ce Dieu qui veille sur chacun et prenons confiance. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce, qui aime chacun et chacune, vous bénit et vous garde. Amen.
Dernier morceau.